Bonjour à tous et bienvenue sur Mordant, le podcast sur la santé animale. Je m'appelle Mathilde Chalut-Natal, je suis ostéopathe animalier et dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec des acteurs de la santé animale, des vétérinaires, des ostéopathes, des sportifs professionnels et bien d'autres encore. Ensemble, nous découvrirons leur vie au quotidien, leur parcours, leur motivation et leurs liens, parfois atypiques et surprenants, avec les animaux. Tous animés par la même passion, nous irons plus loin vers la connaissance de nos amis les bêtes. Pour aider à lancer ce tout nouveau podcast et lui donner un maximum de visibilité, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts et pourquoi pas un petit avis si vous l'avez apprécié. Merci beaucoup! Aujourd'hui, je reçois à mon micro Bénédicte Lucaso, professionnelle de la santé équine qui œuvre pour l'amélioration du bien-être du cheval et en particulier celui du cheval de sport. D'abord ostéopathe, elle se forme ensuite en autodidacte au massage en s'appuyant sur les techniques de kinésithérapie humaine. Elle crée ses propres produits à base d'algues pour répondre aux besoins musculaires des chevaux à l'image des thalassos humaines. Et pour transmettre toutes ces années de recherche et faire bénéficier un maximum de chevaux à ces nouvelles thérapies, elle fonde une école de massage animalier, Equiphysio. Bénédicte est une femme déterminée, indépendante et simple, au parcours riche et inspirant que j'ai eu plaisir de rencontrer et interviewer. Avec Bénédicte, on a parlé de matière, de transmission, de parasympathique et de planning sportif. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Béné.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très très bien, merci.
Merci d'avoir accepté mon invitation et ça me fait plaisir de te rejoindre aujourd'hui près de Chantilly pour ce podcast. Alors, on commence comme d'habitude avec une petite présentation.
Je m'appelle Bénédicte Lucaso, j'ai 55 ans, là voilà, j'avoue mon âge. Et puis donc, je travaille depuis une vingtaine d'années maintenant auprès des animaux, particulièrement les chevaux et puis progressivement les chiens et puis quelques chats. Mon premier métier a été l'ostéopathie, puis j'ai évolué vers le massage, la préparation physique et puis aussi vers l'enseignement.
Comment tu as découvert ce métier d'ostéopathe? Comment après tu es devenue ostéopathe et quelles étaient les formations qui existaient à cette époque?
Alors oui, on peut parler d'époque parce qu'à l'époque, je voulais absolument travailler avec les chevaux, je montais à cheval et je voulais travailler auprès des chevaux, surtout pour leur apporter du bien-être, c'est-à-dire une condition physique et musculaire pour pouvoir faire face aux différentes disciplines, aux exercices physiques qui étaient demandés dans les différentes disciplines équestres. Et donc, je voulais vraiment travailler dans ce sens. Rien n'existait vraiment encore en France, c'était un petit peu trop tôt. Et puis, j'ai découvert à travers, je crois que c'était Cheval Magazine, il y avait une photo d'un jeune homme qui était en train de stretcher un cheval. En fait, il était ostéopathe, il faisait un geste sur l'avant-main du cheval. Et là, je me suis dit, c'est ça, je veux quelque chose où je touche le cheval. J'étais plus à l'aise à côté du cheval, à le toucher et à voir un petit peu ses réactions, ses émotions et la façon dont il se comportait plutôt que d'être dessus à cheval à cette époque. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il existait en Angleterre la première école en ostéopathie, tout simplement. Et donc, j'ai tout arrêté, j'ai tout lâché pour faire cette formation.
Et le massage, comment tu es arrivée au massage?
Alors après avoir fait cette formation, au début elle était sur 3 ans, j'ai commencé à exercer, donc j'ai exercé à peu près pendant 3 ans après, et petit à petit je me suis rendu compte que ma matière, les tissus autour des articulations qui étaient verrouillés au niveau ostéopathique, étaient bien sûr tendus, très souvent au niveau des tissus, et donc je les massais. Je cherchais des techniques pour ramollir tout simplement l'environnement de la zone qui était en lésion ostéopathique, et j'ai pris du plaisir à essayer de trouver des techniques de massage à appliquer sur le cheval de l'humaine. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait en humaine dans les livres en massage humain. Et puis j'ai croisé aussi des personnes intéressantes qui massaient les chevaux non pas avec la main. Et ça, c'est tout au début que j'ai commencé, qui massait avec des machines, les premières sorties des machines.
Ah oui, c'est vrai, il y avait ces machines qui prenaient toute la place dans les voitures.
C'est ça. Et là, j'ai croisé cette personne qui est devenue une amie très chère et qui massait les chevaux avec cette machine-là parce qu'elle n'avait pas de formation autre. Moi, j'intervenais en tant qu'ostéo et puis j'ai vu que la réaction, la capacité à manipuler le cheval qui avait été relaxé par une machine manuelle, c'est-à-dire qu'elle l'avait dans la main et puis elle massait le cheval comme ça, il y avait une facilité à travailler derrière les tissus et travailler en ostéo derrière.
Juste après, c'est-à-dire qu'elle massait et toi t'arrivais tout de suite en ostéo.
Pas forcément le jour même, c'était elle prenait en charge le cheval et peut-être le lendemain ou le surlendemain, okay. Je venais. Là, j'ai réfléchi à me dire, je préfère travailler à la main. Et donc, j'ai commencé à développer mes propres techniques. Je n'ai rien inventé, ça existait en humaine. Il y avait aussi des livres qui existaient en massage équin. Et donc, j'ai travaillé systématiquement massage et puis ostéopathie toute seule pour modifier un petit peu ma prise en charge des chevaux progressivement. Ça s'est commencé comme ça.
Mais pas de formation en massage équin. C'était des livres et puis c'est toi qui as fait toute seule ton protocole un peu.
Oui, parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas d'école. Et puis, j'ai commencé à rencontrer des kinés aussi humains pour essayer de discuter, voir ce qui était applicable. Donc, j'ai eu des séances de kinésithérapie pour moi pendant des années pour des soucis de dos quand j'étais jeune. Et puis donc, je suis retournée voir des kinés pour voir un peu comment ça fonctionnait, les techniques qu'on pouvait appliquer. Donc, j'ai fait des expérimentations. Je n'étais pas la seule. Je pense qu'il y a des gens qui ont massé les chevaux aussi, bien évidemment, dans cet esprit-là. Et puis, je l'ai appliqué sur les chevaux en me formant, en auto-formation, voilà.
En autodidacte, ouais, en autodidacte, presque. Ouais. Et comment tu es rentrée dans le monde des chevaux? Parce que tu as dit, depuis toujours, tu as voulu travailler avec les animaux, apporter du bien-être, et tu as parlé tout de suite de la qualité musculaire. Et c'est marrant de penser tout de suite à ça, et le côté sportif et bien-être tissulaire. Donc, comment tu es rentrée dans ce milieu?
En fait, toute petite, bon, je ne vais pas non plus m'ouvrir trop, mais toute petite, quand je voulais me calmer, quand je voulais me ressourcer, je touchais les chevaux. J'aimais beaucoup le contact, que ce soit des chevaux ou des chiens d'ailleurs. J'avais besoin de toucher. Et donc, c'est ce contact-là qui m'apportait beaucoup de sérénité, de joie, de sérénité. Puis, ça me ressourçait. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de travailler la matière, en fait, et apporter du bien-être en travaillant la matière. Je regardais beaucoup le comportement des chevaux petites. Et donc, quand je touchais les chevaux, il y avait une modification d'attitude. Et donc, petit à petit, j'ai voulu m'intéresser à cette relation peau, attitude, confort et puis relâchement, en fait. Donc, j'étais contente pour lui. C'est comme ça que c'est parti.
C'est trop intéressant. Et chevaux de course?
Alors, les chevaux de course, bah, tout simplement, les premiers clients en ostéo, ça a été des trotteurs.
Okay.
Donc j'ai commencé, je me suis fait la main, on peut le dire, je me suis fait la main sur les trotteurs. Donc pendant pratiquement 5 ans, je n'ai fait que du trotteur et j'en faisais de plus en plus. Parce qu'un trotteur qui était tendu ou pas à l'aise dans son corps ou bloqué au niveau ostéopathique ou même dans les masses musculaires ne pouvait pas s'employer. Donc au fur et à mesure que je le prenais en charge, bah, le cheval était mieux dans sa course, mieux dans son corps. Et donc ça s'est su aussi petit à petit... comme ça se fait quand on va dans une branche, en fait, une discipline. Et puis, j'ai développé, et ce n'était pas forcément ce que j'avais prévu au départ. Et donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de trotteurs comme ça au départ.
Et comment tu as eu l'idée des produits à base d'algues de ta marque Equialgues? Parle-nous de ton concept et de ta découverte des algues.
Alors, c'est aussi tout un processus. C'est-à-dire que, comme je voulais absolument que l'animal, donc le cheval en l'occurrence, se sente bien... après son effort, il puisse récupérer. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que moi, en tant que fille de bord de mer, c'est-à-dire j'ai habité à La Baule, je suis née au bord de la mer, et j'allais faire des soins thalasso, des enveloppements aux algues pour moi, pour me ressourcer. Et surtout après la naissance de ma deuxième fille, j'ai fait des cures de récupération, des enveloppements, les thalasso, en fait, pour les femmes enceintes après l'accouchement. Et c'est là où je me suis dit, mais... bien sûr que la détente psychologique, physique que je ressens après une cure, on peut peut-être l'appliquer pour des chevaux qui sont entraînés, voire surentraînés pour certains, ou très tendus, pour essayer de trouver un moyen de les apaiser, entre deux passages d'ostéo par exemple, ou pour trouver un moyen de les préparer à l'effort et les emmener encore dans des meilleures conditions dans leur discipline. Puisque ça marche sur l'homme, eh ben, y a pas de raison que ça marche pas sur un autre mammifère en fait. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Donc, j'ai été voir des fournisseurs. Donc, c'est en 2009. J'ai commencé les premières expérimentations. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait une recherche sur toutes les algues qui étaient utilisées en humaine, les propriétés de chaque algue.
Et voir si c'est possible et si ce n'est pas toxique et si ça apporte le même bien-être sur un cheval. J'imagine que tout n'est pas applicable.
C'est ça.
Okay.
Il n'y avait aucun protocole qui existait. Donc j'ai pris
ni en France ni à l'étranger.
Non, ni
tu
en France
t'étais
ni
renseignée.
En... Ah oui oui oui.
Ah, bah, ah
oui,
incroyable.
Oui. En 2009, il existait l'argilothérapie, donc l'application d'argile sur le dos. C'est oui. vieux comme le monde. C'est même on a retrouvé des écrits mais très 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 anciens là-dessus. Il y a pas de souci sur les chevaux, appliqués sur les chevaux. Par contre, envelopper, l'acte d'envelopper avec des algues, avec des propriétés, n'existait pas. En humaine, on met les algues chaudes, on met un papier pour garder et le passage des oligo-éléments passe dans le tissu cutané. Les échanges augmentent avec la surface de la feuille, on maintient la chaleur. Et en humaine, on rajoute même une couverture chauffante pour augmenter ce passage-là vasculaire. Et donc, je me suis dit, tiens, sur les chevaux, comment on peut faire ? Donc, j'ai sélectionné les différents types d'algues. Et après, je me suis dit, comment ça va passer dans le tissu, dans le poil, avec la longueur du poil. Donc, d'après des études en humaine, ça passe par le bulbe du poil. Donc, c'est un premier passage avec la circulation sanguine superficielle. Donc, j'ai appliqué des algues particulières. Donc, les premières algues ont été des algues drainantes utilisées en humaine. Et après, je me suis dit, ben oui, mais comment, je mets quelle épaisseur ? Pendant combien de temps ? Sur quelle surface ? Et quel papier je vais mettre par-dessus ? Est-ce que le cheval va bouger ?
Oui. Est-ce qu'il ne va pas devenir fou ?
C'est ça. Et là, j'ai eu de tout. C'était le folklore. C'est-à-dire que je suis partie de la bâche du maçon achetée à Bricot Dépôt, parce que c'est comme ça que ça a commencé. Qu'est-ce que je peux mettre comme plastique ? Donc, la bâche fait trop de bruit et elle adhère pas.
Ouais, ok.
C'est ça. Elle adhère pas de suite au cataplasme chaud qui est posé. Donc, il y avait des espaces où ça collait pas. Le cheval bougeait avec sa polaire, ça faisait du bruit, il partait, il sortait du box. Ok. Donc après, j'ai mis même des sacs poubelles qui étaient adhérents mais toxiques. Après, je suis passée au rideau de douche une fois, c'était assez drôle. L'idée, c'était de trouver un papier qui colle rapidement et qui ne fasse pas de bruit. Et donc, ça a pris plusieurs années, on dirait. C'est vrai que ça fait anecdotique, mais ça m'a vraiment pris 3 ans. Et là, j'ai trouvé un papier utilisé en humaine pour les thalassos humaines, en amidon. Et je ne savais pas si ça aurait été accepté par le cheval. Donc du coup, j'ai fait des essais et en fait, dès qu'on le met sur le cataplasme, c'est adhérent, il n'y a plus du tout de bruit et là, je mets ma polaire. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, tiens, ça fonctionne. Et après, je me suis dit, oui, mais combien de temps ? Alors, je suis passée de 1 heure à 1 heure et demie et maintenant, je suis à 30 minutes et c'est efficient, tout fonctionne. Mais il y a eu tout ce protocole-là de fait pendant 3 ans. Avec, à l'époque, on a essayé avec des collègues ostéo, des collègues véto, des propriétaires, à peu près 300 chevaux, pour voir ce qui marchait le mieux. Voilà.
Oh, c'est génial, incroyable. Et comment tu as fait aussi le produit en lui-même, le produit à base d'algues ? Comment l'algue passe de la matière vivante au produit équialgue ?
Donc, une fois que j'avais sélectionné les types d'algues, c'est-à-dire que je savais qu'en tant qu'ostéo, les chevaux, en général, leur ennemi, entre guillemets, c'est les tensions musculaires. Pour récupérer, l'idée, c'est de récupérer entre 2 épreuves physiques. Donc, que ce soit les courses ou quoi que ce soit. Comment récupérer activement ? Eh bien, on va essayer d'éliminer les toxines au plus rapidement possible parce qu'il n'y avait pas de masseuse dans les écuries forcément qu'ils faisaient à l'époque. Et puis c'est aussi une autre façon d'éliminer les toxines comme en humaine. Donc, j'ai pris des algues spécifiquement qui éliminent les toxines. Je les ai appliquées pour travailler le corps musculaire. Je voulais une réponse musculaire immédiate. Donc, c'était mon premier objectif, trouver des algues qui drainent très fort, qui agissent sur le système lymphatique. Donc là, il y a eu 2 types d'algues qui sont sorties. J'ai fait des mélanges. On a essayé, parce que j'avais aussi des collègues qui m'aidaient. On a essayé. En effet, la réponse du rebond musculaire ou de la densité musculaire était modifiée. Et donc là, à ce moment-là, je me dis, tiens, c'est pas mal l'association de ces 2 types d'algues avec une pause de tant de temps, avec une feuille et la polaire, a une réponse. Bien sûr, par la chaleur, il y a une réponse qui se fait. Mais en plus, ça durait dans le temps.
Voilà, tu regardais la réponse à court terme, très court terme, instantanément. Et puis après, j'imagine un suivi sur semaine, mois, et voir si ça dure dans
c'est
le
ça.
Temps.
Ouais. C'est ça, parce que c'est bien beau d'avoir un cheval détendu sur le moment,
bah oui.
Mais il faut que ça tienne pour le système. Il est comme ça, et puis c'est un système économique aussi. Les chevaux doivent être prêts pour les courses ou aller en concours. Donc, il faut absolument que ça tienne dans le temps. Et donc, on a fait après combien de fois je dois envelopper le cheval pour que ça tienne dans le temps. Donc là, j'ai essayé, mais tout, c'est-à-dire pratiquement tous les jours. Je passais 1 jour sur 2, 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine. Et je regardais mes tissus en tant qu'ostéo, je regardais la réponse à 1 semaine, 15 jours, 3 semaines.
Et tu regardais pour tester le tissu, c'était seulement manuel ou tu avais une machine ou comment on teste pour être vraiment le plus objectif et quantifiable possible, c'est
oui.
évident.
Exactement, c'était subjectif au début. Ça a été en fait
ton ressenti.
Mon ressenti en tant qu'ostéo, mais les résultats montés des cavaliers et les résultats des vétérinaires qui l'utilisaient aussi,
oui,
ou des collègues.
Oui, c'était entrecoupé de plusieurs réponses.
Okay. Donc on avait une réponse et du geste sportif qui était amélioré, par exemple une détente musculaire, et le rebond que j'avais sous la main, un tissu plus souple et un cheval détendu psychologiquement. Mmh. Et l'association des trois m'a permis de cibler précisément certaines algues. Et après, j'ai commencé à modifier, c'est-à-dire à me dire, tiens, bah, je vais drainer. Je vais mettre un protocole de récupération avec ce type d'algue-là pour drainer rapidement, pour que le cheval récupère et retourne en concours derrière.
Sur quelle algue ? Est-ce que tu peux nous donner des noms ?
Oui, bien sûr. Il y a le fucus, particulièrement en humaine, il est utilisé pour maigrir, qui stimule le système lymphatique. Et donc, après, on élimine, on boit aussi beaucoup derrière. Ça fonctionne sur le système, il y a une très très bonne réponse sur le système lymphatique. Donc, je me suis dit, bah oui, c'est exactement le même principe. Et ça a été le même principe. C'est une des algues dans le protocole utilisé dans les produits qu'on a créés. On l'a inclus dans beaucoup de produits, mais associé avec d'autres algues pour apporter aussi un autre soutien, par exemple plus de calcium, plus de fer, etc. Parce qu'on travaille avec des athlètes.
Oui, pour un meilleur fonctionnement de la contraction musculaire.
Oui, exact.
Et d'où viennent tes algues ?
Alors, Bretagne. Je travaille qu'avec des produits français parce qu'il existe des algues ailleurs, mais moi je reste en France. Pourquoi ? Parce qu'on est adapté au milieu, donc je veux garder un œil sur la qualité aussi du milieu. Donc ce sont des algues bretonnes. Certaines algues sont pêchées au large, après elles viennent, elles sont séchées donc dans des séchoirs et après micronisées pour en faire une poudre le plus fin possible selon l'utilisation. Plus c'est fin, plus ça passera dans les échanges au niveau cutané. Donc c'est utilisé en humaine, en thalasso, assez fine. Si c'est grossier, ça n'a pas le même emploi. Donc ça peut être mangé ou ça peut être autrement. Donc là, c'est micronisé très 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 fin et puis mélangé avec d'autres algues pour rendre le tout en fait très très efficace.
Et est-ce que tu peux nous donner des exemples d'algues et leurs propriétés ? Rapidement, tu as parlé du fucus avec la stimulation du système lymphatique.
On a le lithotame aussi qui est très très concentré en calcium. Alors après, la particularité de travailler avec ce type de matière, c'est qu'on a certaines algues qui sont plus rares que d'autres et qui sont même contrôlées pour justement garder encore une quantité suffisante.
Dans les océans et
dans les
mers.
Dans les océans, exactement, parce que c'est quand même... Il y a des algues, on racle le fond, d'autres on les arrache pour qu'ils repoussent. Donc il y a aussi tout ce côté-là qui fait que c'est de la matière vivante qui peut varier énormément selon la récolte.
Okay.
La qualité, le prix varie selon la qualité de la récolte, etc. etc. et les quotas aussi possibles. Donc on a d'autres types d'algues très très chargées en calcium pour la contraction musculaire, par exemple. Donc c'est intéressant de le charger. Et c'est vrai que comme on sait que la feuille plus la chaleur permet un passage rapide dans la circulation superficielle, bon, on peut emmener les oligos de toutes ces algues-là.
J'ai une question, est-ce que tes produits, on peut les appliquer sur nous, sur l'homme ?
Alors les dosages pour les chevaux, je les ai créés selon la réponse du cheval, selon son poil, sa qualité, son épaisseur ou la sensibilité même de sa réponse. En humaine, je ne l'ai pas testé, ils ont leur propre mélange. Et donc moi j'ai été testée sur moi, tous. Je voulais savoir quel effet ça faisait. Donc ça a bien marché aussi, mais c'est un usage vraiment pour les animaux.
Oui, ouais. Ce ne sera pas le plus optimal.
Et donc, à la suite de ces 3 ans de tests sur les dosages, quelle composition je vais faire, j'ai décidé en 2011 en fait, de sortir la première gamme. Ça avait été une demande des chevaux qui étaient en cure, que j'avais à la boule en fait, à l'époque. Et quand les clients récupéraient, les propriétaires récupéraient leurs chevaux, ils voulaient repartir avec quelque chose. Et je n'avais pas pensé du tout à l'époque, c'était vraiment en tant qu'ostéo, avoir un outil supplémentaire pour préparer des chevaux à l'effort et en récupération, et j'avais pas pensé de vendre les produits. Donc en 2011, j'ai fait une rencontre avec un des fournisseurs qui m'a dit « Mais pourquoi tu sortirais pas une gamme ?» Et donc c'est parti comme ça, pour le Salon du Cheval. En 2011, on a préparé une gamme spécifique pour les professionnels, avec des dosages beaucoup plus forts, et puis une gamme pour les particuliers, pour entretenir le passage du professionnel. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et on reste vraiment dans la cosmétique et le bien-être, parce que c'est une application extérieure à la peau. Il n'y a rien qui est ingéré. Donc, okay. on reste vraiment dans deux gammes
qui sont conçues sur le même principe, mais moins dosées pour le propriétaire, afin d'éviter les accidents ou les mauvaises applications, j'imagine, mais pour avoir un suivi de fond toute l'année.
C'est ça.
Mais là, tu as parlé de Equitalasso. Est-ce que tu peux nous en parler? On n'en a pas encore parlé.
Alors, Equitalasso, ça a été la première société que j'ai créée qui regroupait mes prestations en enveloppement, justement la création de ce concept d'enveloppement. C'est un vrai concept qui a été déposé avec tous les produits, les propriétés, etc. Et puis, donc, je travaillais sous le nom d'Equitalasso quand je faisais mes cures. Et puis, comme j'ai fait beaucoup de soins à l'étranger, j'ai fait découvrir ça à l'étranger, le mot Equitalasso se prononçait beaucoup mieux que la société Equialg qui vendait les produits. Parce que la société Equialg, il y a le nom dedans, elle vend la gamme de produits. Mais Equialg ne se prononçait pas du tout bien à l'étranger, aux États-Unis du tout. Et il retenait Equitalasso. Et donc, ça migrait, je ne sais pas, ça, j'ai aucune idée du temps, mais peut-être il y a 6 ans, 6, 7 ans, j'en sais rien, je me suis dit, on va appeler les produits Equitalasso et non plus Equialg sur l'étiquette. Et donc, on a migré comme ça.
Ok, donc là, je fais une erreur. Il faut dire Equitalasso pour les produits aussi.
C'est ça.
Voilà. Et ton centre de remise en forme équine.
Alors, le centre de remise en forme, ce n'était pas vraiment un centre, c'était des box que j'avais à La Baule au départ, au centre équestre de La Baule où j'ai appris à monter à cheval.
Oh.
Et donc, les chevaux allaient à la plage. Donc, ils avaient l'iode de la plage, ils travaillaient dans l'eau. J'avais une cavalière qui faisait ça. Et puis, moi, je faisais les enveloppements, les massages, l'ostéo. Et les chevaux venaient en cure et ils repartaient pour la saison, etc. Et puis, j'ai arrêté de le faire parce que je ne pouvais pas être sur la route faire mon ostéopathie. Et puis avoir mes chevaux en cure. Et donc, je l'ai fait en itinérant après, en allant au fur et à mesure dans les écuries, faire les enveloppements, les suivis sportifs. Donc ça, j'ai eu la chance d'approcher des grands cavaliers avec ce concept-là, où j'ai suivi l'écurie pendant un an, deux ans, plusieurs années ou sur une période déterminée. Et puis petit à petit, je suis arrivée à me dire, je vais former des personnes. Je ne pouvais pas être partout. C'est soit j'embauchais une équipe, soit je formais des gens.
Le concept était tellement fort et a marché tellement bien et nouveau aussi.
Voilà.
Donc personne n'était formé à part toi qui t'étais formée toute seule et qui avait conçu tes propres produits. Je trouve ça incroyable. Et du coup, tu t'es dit, il faut former d'autres personnes à ton image. Tous les protocoles que tu as travaillé et réfléchi pendant des années.
C'est ça. Et j'ai pris la décision dès le départ de transmettre ce concept avec les protocoles, le temps de pose, l'application, même le sens du poil. Enfin, il y avait toutes les réactions des chevaux. J'en ai vu un tas de réactions de chevaux. J'ai décidé que ce concept serait seulement fait pour présenter aux professionnels. J'ai formé pas mal de vétérinaires à ce concept-là pour préparer leurs chevaux ou conseiller la préparation de ces chevaux-là par d'autres professionnels, par exemple des ostéos, des masseuses qui le faisaient, ou des ostéos aussi qui venaient apprendre. Et puis après, ça a été les masseuses. Mais je voulais d'abord, dans un premier temps, que ça soit les professionnels, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, le temps de pause. Et puis, il y a les réactions de chevaux, il faut savoir les gérer. Et puis, j'imagine que
pour commencer, c'est plus facile d'apprendre un nouveau concept à quelqu'un qui a déjà l'anatomie en main et aussi une main développée, etc. Je pense que c'était progressif, valait mieux le faire dans ce sens-là.
Chacun son métier.
Ouais. Est-ce que maintenant, du coup, tu as des classes différentes pour les novices, on va dire, et puis déjà les professionnels sur terrain où tout le monde se mélange dans les classes?
Alors là, la transmission de ce concept, je ne parlais pas encore de la transmission dans la formation, dans une classe. Là, c'était vraiment déjà pour les professionnels qui étaient sur le terrain, qui voulaient un nouvel outil, un nouveau procédé pour préparer les chevaux.
Ok, je suis allée trop vite. J'ai switché tout de suite sur le concept de ton école Equiphysio. Mais ça, il y a eu autre chose avant. Bah, vas-y. Ça. Ok.
L'idée après, c'est que j'ai voulu transmettre tout ce que j'avais appris sur les chevaux, sans prétention, mais au moins les premiers effets du massage, parce que j'en faisais de plus en plus pour la préparation physique, couplée avec l'algo. Donc j'ai voulu transmettre et j'ai commencé à réfléchir à créer une petite cellule de formation en massage équin. Mon constat, pourquoi j'ai fait ça en fait, c'est que sur le terrain, il y a très très peu de masseuses et les masseuses qui existaient en France, elles étaient seulement avec des machines. Il n'y avait rien au niveau manuel. Je voyageais beaucoup avec mon concept des algues. Et là, j'ai pu rencontrer énormément d'équipes de masseuses dans d'autres, aux États-Unis. Je suis allée en Corée aussi. J'ai été en Allemagne, en Angleterre, au Canada, etc. Il y avait beaucoup, beaucoup d'équipes avec des masseuses où ils les appelaient les physiothérapeutes, mais peu importe le nom, qui préparaient les chevaux à l'effort dans une équipe de vétérinaires, de maréchal et puis d'ostéo. Et donc, ces équipes autour du cheval de compétition ou même de loisir, hein, je me suis dit que ça serait intéressant qu'en France, on puisse aussi avoir un autre regard sur le cheval en tant qu'athlète et le préparer ou au moins le suivre dans son confort musculaire. Et comme ça, j'ai eu l'idée d'ouvrir cette première cellule de formation Equiphysio, où j'ai transmis en effet pour les personnes intéressées le concept des enveloppements. En dehors de la formation, je transmets ça pour celles qui veulent avoir un outil supplémentaire. Donc tout le monde ne l'utilise pas. Pourquoi ? Parce que les mains, ça suffit aussi.
Oui, donc Equiphysio, le concept est plus le massage.
Absolument.
Le massage équin.
Voilà. Donc c'est la préparation physique, le bien-être, purement le confort et le bien-être des chevaux et des chiens. Donc c'est vraiment pour permettre à des personnes de suivre des chevaux de sport et de loisirs dans les écuries, autour d'une équipe, comme ça se fait à l'étranger, autour d'une équipe en fait. Donc nous on intervient seulement quand le cheval est sain et au travail, vu par le vétérinaire, et quand c'est validé en fait. Toute la chaîne est validée et le cheval travaille. Donc on est vraiment dans l'entretien de bien-être physique musculaire.
Comment se présente le cursus de cette école ?
Alors comment je l'ai pensé au départ, ça a été très progressif. Au départ, on était sur un nombre d'heures qui était plus limité. Donc on était à 700 heures et maintenant on est à presque 1200 heures de massage, de cours. Et donc j'ai commencé, on était 7 élèves quand j'ai commencé à la Baule. Donc c'était ma première promotion. Et puis petit à petit, ça s'est su sur le terrain qu'il y avait des masseuses, parce que je dis masseuses, parce que ce sont à 99% des femmes. C'est comme ça, ça se présente comme ça, elles sont attirées et puis elles sont sensibles dans celles qui viennent. Elles sont très sensibles au bien-être de l'animal. Elles sont toutes cavalières très souvent, donc elles font de la compétition ou du loisir ou elles sont groom, donc elles montent aussi à cheval, mais elles veulent que le cheval soit au maximum de sa capacité musculaire, mentale aussi. Donc au fur et à mesure du développement de la notoriété de l'école, du niveau des élèves qui sortaient, donc ça a progressivement, ça s'est amplifié le nombre d'élèves qui voulaient venir. Donc j'ai recruté énormément de gens extrêmement compétents pour m'entourer. Au début j'ai commencé seule, mais on ne peut pas être bon dans tous les domaines. J'ai pris des spécialistes, il y a eu des kinésithérapeutes qui sont venus donner des cours sur l'intérêt du travail musculaire dans le bien-être. Et puis après, bien sûr, des vétérinaires pour connaître aussi la physiologie, comment ça fonctionne. Et puis après, on a des ostéos, mais eux qui s'intéressent juste à la biomécanique et à l'enseignement des muscles et puis de l'ostéo-articulaire. Ça s'est développé comme ça. Et puis, progressivement aussi, on a augmenté le nombre d'heures pour alterner aussi bien les stages, la pratique, la théorie, pour avoir un professionnel au bout de 12 mois qui puisse être capable de prendre en charge un animal.
Donc les professionnels qui sortent, ils ne sont pas physiothérapeutes, on les appelle des masseurs.
Oui.
Masseurs équins, masseurs animaliers.
C'est des ça. Masseurs et des masseuses, principalement.
Oui, masseuses. On peut arrondir au féminin.
Mais
moi, je
oui,
préfère aussi.
Langage épicène, c'est bien aussi. Animalier, pourquoi ? Parce qu'on a autant des animaux, des chevaux que des chiens. Les deux se développent beaucoup. Et puis, au fur et à mesure que ça s'est développé, j'ai eu envie, avec l'appui de formateurs, d'encadrer la formation et de la faire reconnaître en tant que formation de qualité. Parce qu'on se donnait vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec l'ensemble des enseignants pour transmettre l'essentiel à nos futurs professionnels, aux stagiaires qui étaient en formation, avec une formation très complète qui puisse les mettre dans des dispositions de responsabilité de prendre en charge un animal pour le préparer physiquement. Et donc, j'ai fait la démarche de faire référencer l'école à Calliope. Calliope, c'est un référencement qualité des organismes de formation. Donc, ça a pris énormément de temps. C'est pour ça que je suis retournée faire des études exprès. Donc, la démarche a été de retourner à l'Université de Rouen pour faire un Master 2 en ingénierie, conseil et formation, ingénierie pédagogique, parce que ça demande une grosse ingénierie pour faire reconnaître en fait la qualité d'une formation. Il y a tout un process, il y a énormément de tableaux de bord à remplir, des feedbacks qualité, donc c'est tout un processus. Donc on a eu la certification.
Félicitations après tout ce travail.
Donc j'étais vraiment, ça me tenait à cœur, vraiment la référencement Calliope, c'est quelque chose qui est... C'est une consécration quand même, parce qu'ils vont très loin.
C'est gage aussi de qualité et de professionnalisme pour ta formation.
Oui, c'est-à-dire que ce référencement-là tient compte et de l'élève, c'est-à-dire est-ce que l'élève est satisfait dans des bonnes conditions d'apprentissage ? Est-ce que les formateurs ont un bon niveau ? Qu'est-ce qu'il en est de la rétroaction des apprentissages ? Donc c'est un ensemble, c'est une vue globale. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Donc on l'a depuis l'année dernière. Et puis là, on doit renouveler notre reconnaissance nationale des certifications professionnelles, le RNCP, France Compétences. Donc ça va être renouvelé pour l'année prochaine parce qu'on doit le renouveler tous les 3 ans. Donc on va le renouveler l'année prochaine. Là aussi, c'est un autre volet.
Pour ne pas perdre le titre.
Le titre, oui, c'est disons, le RNCP, ça donne juste un niveau.
Un niveau, une équivalence.
Une équivalence. Si on voulait continuer nos études, ça donne une équivalence.
En durée d'études, oui, c'est ça.
C'est pas un titre professionnel, c'est une équivalence. Oui. Et donc, c'est intéressant aussi pour les élèves. C'est pour ça que je me bats aussi pour essayer de le refaire.
Super. Et on va passer maintenant plus au concret. Est-ce que tu peux nous donner du coup un exemple de tout ce dont on vient de parler? Un exemple de planning, de protocole de soins, par exemple sur un cheval de course, avant une grosse échéance, pendant et après une échéance, que ce soit en ostéopathie, massage, enveloppement, repos, entraînement, voilà.
Alors oui, c'est le cœur d'ailleurs de métier des personnes qui sortent, des femmes qui sortent de cette formation, c'est d'être capable, par rapport à un planning sportif d'un cheval, de s'intégrer dans l'équipe sans perturber déjà les intervenants qui viennent, que ce soit le vétérinaire, l'ostéopathe, le maréchal, etc., le dentiste. Donc il faut absolument s'intercaler par rapport aux échéances. Donc le protocole de base en général, c'est le retour de concours de course le lundi, c'est très souvent les lundis, on va faire un massage de récupération.
Donc dès le lendemain.
Dès le lendemain.
Ok.
L'idée, c'est au maximum les déchets métaboliques, c'est-à-dire créés par l'activité musculaire, ne restent pas trop longtemps dans le corps. Et donc, on va essayer de le chasser au maximum par des techniques de massage, de récupération,
sur
de drainage.
Sur un muscle encore courbaturé.
Ouais, c'est ça. Okay. Bah, courbaturé, oui ou pas, ça ou peut pas. S'éclairer oui. À 48 heures, oui. Donc, voire même
juste
3
avant,
jours.
Ouais.
Quoi. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, soit le lundi, selon le planning, moi, c'était les lundis. Le plus près possible de l'effort physique.
Okay.
Donc là, on avait un message de récupération, on faisait un petit peu l'état des lieux, on regardait ce qui bougeait bien, on faisait des mobilisations, voir comment ça bougeait. On regarde aussi si mon muscle a du rebond, est-ce que ça fonctionne ou pas, etc. Donc on fait l'inventaire, on le fait marcher pour voir comment il se déplace.
Est-ce que ça, tu te souviens ou alors tu as un carnet pour chaque cheval? Parce que j'imagine que si tu suis une écurie de course, tu en vois beaucoup et au bout d'un moment, on se mélange les pinceaux entre tous les chevaux. Après, il y en a qui nous marquent plus que d'autres, mais on peut vite se mélanger. Donc, comment tu retenais toutes les données?
Alors, c'est le carnet, le traditionnel petit carnet où on note tout, les fiches de suivi qu'on va rendre au client, par exemple, ou la fiche avec le cheval de profil, de phase de profil. Et on va faire des croix, on va envelopper les muscles, on va les citer, on va mettre une cotation de 3, de 1 à 3 selon la densité du muscle pour se rappeler de cette densité-là. Ça permet de voir là, le lundi d'après si ma densité est la même sur le trapèze, sur une zone précise. Et puis, on peut suivre comme ça l'évolution. Alors, c'est quelque chose de très scolaire, entre guillemets, mais c'est ce qu'il faut faire. Mais moi, j'aime bien aussi arriver et ne pas savoir comment était l'individu avant, donc le cheval que je vais masser, pour ne pas être influencé par son schéma corporel de la semaine d'avant. Et de temps en temps, je ferme les yeux et je regarde qu'est-ce que j'ai là. Je constate sans regarder ce que j'avais trouvé avant. Donc, je peux le faire une fois sur deux, mais j'aime bien voir, redécouvrir, pour ne pas m'attendre à quelque chose.
Oui, ou alors tu arrives, tu le masses, tu l'auscultes, et puis ensuite tu mets tes cotations, puis tu compares avec ce que tu avais
voilà,
avant.
C'est voilà, c'est ça. Et je me dis à la fin, au fait, qu'est-ce que j'avais? Et ce n'est pas la même démarche, c'est un œil neuf, c'est pour avoir un œil un petit peu plus neuf, et puis voir aussi comment il a évolué dans sa semaine, s'il y a des choses nouvelles, donc ça me permet de discuter aussi. Donc le lundi, on va faire un état des lieux, et puis je vais faire un massage complet. En général, le mardi, l'idéal, c'est qu'il fasse un travail léger ou plutôt paddock. Et il reprend progressivement. Et s'il est en concours ou en course le week-end ou le samedi, bah peut-être que je vais venir, l'idéal, c'est le vendredi, faire un massage de préparation avant la course ou le jour même, un massage de préparation physique une heure avant la course ou 2 heures avant la course ou avant l'événement sportif pour ne pas gêner les grooms, par exemple. Donc, je vais faire un échauffement musculaire avant la course.
Qui ne l'amène pas trop en parasympathique.
C'est ça.
Parce que voilà, c'est le revers du massage parfois.
C'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut connaître les techniques. Il faut une formation et on ne peut pas s'improviser sur un cheval, sur un concours. On ne pourra jamais aller toucher un cheval que je ne connais pas. Tiens, je vais le masser, je vais modifier tous ses repères, son schéma corporel, ses repères sur l'amplitude de son mouvement qui a été quand même intégré dans son corps. Même le cavalier l'a intégré. Donc, à la maison, à l'écurie, je vais déjà voir ce qu'il donne. Sa réponse 48 heures. 8 jours, ok, il répond bien, il répond fort. Ah non, il n'y a pas de réponse. Donc peut-être qu'il faut que je vienne 2 semaines avant l'échéance sportive pour pouvoir avoir une réponse le jour J. Donc, on ne va pas s'improviser le jour même. Et si je sais que c'est un cheval qui répond très, très vite, qui se relâche trop vite, eh ben, l'échauffement va être très court. Ou un échauffement qui va réveiller certains capteurs neuro qui vont garder le cheval avec un tonus. Garder ce tonus-là.
Je pense qu'on peut aussi te demander l'inverse sur un cheval qui peut être très stressé, peut-être pas pour une course, mais peut-être pour du dressage, pour le concentrer et le mettre un peu plus en para peut-être.
C'est ça, okay. Exactement. Et là, on connaît l'individu encore, son cheval, on l'a vu à la maison, à l'écurie, et je sais que l'effleurage est très très lent sur ce cheval-là avant de faire le dressage en complet. J'ai eu des chevaux comme ça, ils répondent très bien, ils se posent, ils se détendent, donc c'est mental. Le tissu aussi se détend, donc le cheval mentalement se détend. Tout le monde est détendu et là, il peut s'exprimer beaucoup mieux dans ses gestes. Donc oui, en effet, et là, c'est au cas par cas et c'est là où ça demande de l'expérience.
Je parle para-ortho, mais c'est vrai que tout le monde ne connaît pas. Est-ce que tu peux juste faire un petit brief sur les deux ?
L'idéal, c'est quand le cheval a l'ortho, ce système végétatif qui est involontaire, qui fonctionne tout seul. On a deux systèmes et c'est vrai que l'ortho sympathique et le parasympathique, ces deux systèmes normalement travaillent en harmonie, en équilibre pour récupérer. Donc après une course, pour récupérer après un effort physique, et même pour fonctionner de toute façon au niveau physiologique, le corps doit avoir un équilibre entre les échanges, l'élimination, la régénération, la récupération, etc. Et donc nous, le fait de connaître ce système-là, on sait que quand on a des techniques assez lentes sur des tissus de type les fascias ou des techniques lentes et répétées, on va agir plutôt sur le para, on va détendre et on voit la tête du cheval qui s'abaisse et le tonus sous la main qui fond. Donc on est plutôt dans la détente et là on ne le fera pas avant de sauter un grand prix. C'est de la logique, c'est juste une récupération. Et puis si on veut l'exciter un petit peu, on va travailler sur un autre système, d'autres mécanorécepteurs qui vont exciter d'autres systèmes. En effet, ça peut être l'ortho. Donc là, on va le réveiller comme ça. Mais on sait qu'un cheval, de toute façon, quand il va aller travailler, il va se mettre en ortho, il ne va pas être en détente. Donc nous, on va beaucoup travailler sur le para pour essayer d'activer la récupération physique.
Ok. Donc là, on a parlé plutôt du massage dans l'intégration du protocole du cheval de sport. Mais à quel moment tu fais la séance d'ostéopathie ou tu fais l'enveloppement en loose algue ?
Alors c'est vrai, quand on a pour les ostéos plusieurs casquettes, il faut faire attention à ne pas cumuler tout sur une même séance. Ça m'est arrivé, j'ai essayé parce que j'aime bien expérimenter pour voir, sur des chevaux sains bien sûr, mais voir un peu les réactions possibles du corps sur des choses assez bénignes, même dans des blocages assez bénins qui n'engendrent pas une impotence ou qui n'engendrent pas vraiment une locomotion difficile.
Des gros effets secondaires.
Non. Mais ce n'est pas souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est par exemple, on va d'abord travailler en massage, donc enveloppement, massage, on peut coupler les deux. C'est-à-dire, si j'ai un cheval très, très tendu, après une course en récupération, je vais faire un enveloppement et le tonus va tellement chuter dans certaines parties musculaires que je vais pouvoir aller travailler musculairement quelques points clés sur des bras de levier, des accroches stratégiques sur le garrot ou sur le bassin, sur la nuque, etc. Des accroches musculaires stratégiques, spécifiquement un massage beaucoup plus court parce qu'il y a déjà eu une baisse du tonus avec l'enveloppement. Donc ça va être beaucoup plus rapide mon massage. Mon cheval fonctionne bien, tout va bien sous la main. Et puis si je dois faire venir un ostéo, c'est bien d'intervenir, on va dire, une semaine après. Quand le corps a récupéré, il a exprimé ce qu'il devait exprimer en amélioration et on voit ce qui reste. Et l'ostéo vient après. Après, il y a plusieurs écoles.
On a enlevé les couches en fait, de tension pour que l'ostéopathe il arrive avec un schéma plus clair, moins de tension. Et par contre, on peut aussi se dire que justement, ça va être trop clair et qu'il y a trop de tension enlevée et que lui ne va pas avoir le cheval de base.
Oui, c'est ça. Avec une réponse sur des zones, quand on a des blocages sur des charnières ou quand on a des réponses du tissu qui sont hyper esthésiques, hyper douloureux à certains endroits, qui nous donnent aussi une indication en tant qu'ostéo, on l'annule un petit peu avec la chaleur de l'enveloppement ou la circulation sanguine du massage. Certes, on l'annule. C'est pour ça que j'aime bien attendre plusieurs jours pour que chacun réponde dans la réponse de l'action qui a été faite. Donc, si c'est les massages, on voit comment le corps se comporte derrière, les réponses qu'il donne au niveau physiologique, les échanges, etc. Et puis, quand l'ostéo vient, il y a quand même une semaine de décalage. Il y a quand même, si c'est bloqué, ça restera bloqué. Par contre, on a certaines réponses où c'est juste musculaire. C'est une réponse de tension musculaire qui crée un désordre dans la locomotion, mais on n'est pas forcément au niveau articulaire.
Oui, après l'ostéo, il peut toujours agir dessus, mais c'est sûr que c'est sûr que même en humaine, j'écoutais des podcasts où je lisais des articles et même en humaine, personne n'est d'accord.
Non.
Il y a le kiné qui va dire, ben moi je préfère masser avant le soin ostéo. Ça peut être non, moi je préfère l'ostéo et après travailler ensuite. Je pense que les deux sont possibles et les deux ont raison en fait et il faut s'adapter aux praticiens et à l'animal. J'enchaîne sur une question plus personnelle. Toi, tu te vois plus comme une chef d'entreprise entre tes différentes entreprises Equit à l'asso, Equi Algues et ton école Equi Physio, une ostéopathe, une masseuse, une physiothérapeute. Comment tu te vois, tu te définis ?
Alors, c'est vrai que de façon générale, une femme particulièrement qui entreprend un petit peu plusieurs types d'activités, plusieurs casquettes, on a du mal, on n'aime pas trop, on a du mal à mettre une étiquette ou à le mettre dans une case.
Et on veut mettre une étiquette, telle est ma question. Est-ce qu'il faut en mettre une ? Je ne sais pas.
On a le droit d'avoir plusieurs personnalités, plusieurs compétences, plusieurs qualités. Tout le monde en a plusieurs. On n'est pas obligé d'être tout le temps dans la même continuité de ce qu'on fait depuis des années. En même temps, ça se rejoint tout ça. Pour finir, mon objectif de base de petite fille, pourquoi j'ai voulu faire ça, c'est pour vraiment les aider dans l'utilisation qu'on en fait par l'homme dans les disciplines. C'est un athlète sportif. Et vraiment, ma vision, ça a été pourquoi les athlètes humains sont suivis et pourquoi les chevaux ne sont pas suivis au même niveau. Ils ont aussi le droit à cet égard-là.
Alors qu'on leur demande énormément d'efforts en sport.
Et ils font vivre une filière énorme. Et par respect pour cet animal, c'est le minimum de faire en sorte qu'il soit le plus confort possible pour qu'il souffre le moins et qu'il ait envie d'y retourner. Et qu'il lâche pas l'affaire et qu'il soit vraiment le plus confortable dans son corps et dans son mental. Et donc, tout est lié. Qu'on fasse du shiatsu, qu'on fasse de l'acupuncture, qu'on fasse de l'ostéo, du massage. Désolée si j'oublie des... Mais peu importe, tout ça, c'est...
on le est porté. Groom aussi.
Mais oui, on est porté par une chose, c'est qu'on l'aime dans le sens... on lui veut du bien et on veut l'accompagner dans une discipline. Moi, j'adore le haut niveau, j'adore les chevaux. Athlètes, alors que je sais que c'est quand même très contraignant pour eux, mais ça me fascine. Mais en même temps, je veux qu'ils soient bien et j'ai beaucoup, beaucoup de mal en vieillissant à voir la souffrance parce qu'elle se voit, enfin, ou le mal-être ou l'inconfort du cheval, ça se signe sur les yeux, ça signe partout sur le visage, sur leur tête, sur leur corps, la peau. On le voit. On le voit pourquoi ? C'est quand on voit un cheval qui est vraiment bien, très bien dans son corps, qui est très très bon, comme j'ai pu croiser des chevaux d'exception, qui ont un moral d'acier et une joie de vivre, ben là, par différence, c'est criant sur d'autres chevaux qui n'ont pas la capacité de le faire, certes, mais qui n'ont peut-être aussi pas l'équipe ou pas les moyens, parce que ça coûte des sous, d'avoir une équipe qui s'occupe de lui à son niveau pour l'amener quand même, même si c'est un petit niveau. On doit ce respect-là parce qu'on en vit, on vit tous de cet animal-là. Donc c'est vrai que c'est ça qui m'a porté. Donc c'est pour ça la casquette, oui, bah... peu importe, en fait, tout ça, ça rejoint le même objectif.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Et transmettre un savoir ou une passion à quelqu'un d'autre qui va refaire peut-être aussi ça pour d'autres chevaux, eh ben moi, je suis contente, je peux partir en retraite.
Oui, oui, ta mission, elle te dépasse puisque ce n'est plus que toi. Là, tu la diffuses à un grand nombre.
C'est ça.
C'est génial.
Ouvrir les esprits, créer le besoin, bah c'est par la multiplication de gens compétents qui font des choses bien justement sur le terrain, respectueuses pour l'animal et dans le discours aussi, explicatif pour éduquer entre guillemets bah les gens. On a tous besoin de savoir, on n'a pas toutes les connaissances possibles. Plus il y aura de gens, plus ça changera les choses et plus on aura un besoin normal d'avoir tous ces professionnels dans une équipe comme ça se fait à l'étranger.
Et comment tu partages ton temps entre toutes ces activités ? Est-ce que tu peux nous décrire une semaine type ou un mois type ?
Ça a beaucoup évolué. Les 10 premières années, c'était l'ostéopathie tous les jours, à fond, samedi, dimanche, tout le temps, pendant un minimum, à peu près, ça a été pendant 13 ans, ça, jusqu'à 15 ans où j'ai commencé à ouvrir mon école. Donc, j'ai diminué progressivement, mais ça reste mon cœur de métier, masser les chevaux. Les préparer, ça reste ma raison de vivre pour me ressourcer et ma légitimité aussi après pour pouvoir transmettre ce que je vois sur le terrain, ça me paraît évident. Et donc j'essaye tout le temps d'équilibrer, mais en sachant que c'était très très difficile au début, c'était 100% dans le travail et donc ça fonctionne pas longtemps ça, mais il faut faire ses preuves, il faut manger du cheval, donc j'ai voulu apprendre le métier. Après j'ai commencé à comprendre qu'il fallait quelques jours de repos quand j'ai créé ma famille.
Comme pour les chevaux, hein,
ouais.
Il faut faire du repos aussi
ouais,
pour nous.
C'est ça. C'est ça. Et là, bah, j'avais éventuellement un dimanche. Et petit à petit, je suis passée à plus. Et quand j'ai créé l'école, il a fallu que je répartisse et mes lectures bah, pour faire le programme, pour enseigner, me perfectionner. Donc, beaucoup dans les lectures, bien sûr, dans le dialogue avec d'autres collaborateurs ostéos, kinés humains, beaucoup. J'ai eu la chance d'être encadrée avec un homme exceptionnel, François Serre, qui a travaillé avec moi, qui m'a énormément appris aussi. Il a toutes les casquettes, mais là, c'est vrai que pour un homme, c'est peut-être différent. Je ne sais pas si on... les casquettes d'un homme sont différentes qu'une femme qui a plein de casquettes. Peut-être que l'approche n'est pas la même ou la... le regard extérieur n'est peut-être pas le même sur...
On lui pose moins de questions, on trouve
ouais,
ça plus légitime.
Curieusement, ouais, curieusement. Bon, ça, c'est mon côté féministe en fin de... je peux me permettre maintenant à mon âge. Voilà les casquettes et puis je ne sais pas de quoi on parlait en fait, c'était le temps.
Comment tu répartis voilà, ton ça. Temps entre toutes tes activités?
Donc quand j'ai créé l'école, bah, ma priorité c'était l'école. Donc on ne peut pas se permettre de faire venir des gens sans avoir un cadre et transmettre quelque chose. Donc c'est soit on le fait bien, soit on ne le fait pas. Donc là je me suis mis à fond dedans, j'ai diminué ma clientèle ostéo, mais j'en avais besoin quand même au début aussi. Et puis petit à petit j'ai diminué et je suis passée plutôt vers une clientèle massage. Parce que j'aime vraiment ça, la matière. C'est quelque chose, pour finir, j'aime vraiment ça. Ça me détend d'aller masser des chevaux, de les aider, de les préparer. Je fais, on va dire, en pourcentage, clairement maintenant, je ne suis plus à 100%, je suis à peu près à 30% sur le terrain, en suivi sportif. Et le reste du temps, c'est vraiment gestion de l'équipe. Il y a 7 formateurs, faire tourner aussi l'entreprise, recevoir les élèves, les recruter pour les sélectionner. Et puis, il y a tout le suivi. Et puis, il y a aussi bah, toute l'ingénierie pédagogique à mettre en place. Et puis là aussi, je continue mes études et j'ai entamé un doctorat à distance pour aller plus loin encore dans l'enseignement de l'éducation, en éducation, pardon. Donc, dans les technologies éducatives, dans tout ce qui va sortir un peu nouveau. Aussi à distance, l'enseignement à distance, mais qu'il y ait aussi un petit peu de présentiel à distance, donc jouer sur les nouvelles technologies, en fait. Donc,
voilà. Comme les podcasts. Et qu'est-ce que tu fais pour toi? Parce que là, tu as dit que tu t'octroyais au bout d'une dizaine d'années des dimanches, donc il y a eu des jours de repos, mais est-ce que tu t'offres des soins aussi? Qu'est-ce que tu fais pour ton bien-être à toi?
Alors, c'est vrai qu'avant que je lance la gamme Equialg en 2009, j'aimais bien faire des enveloppements, des soins. Après, ça m'a pris énormément de temps de lancer l'école. J'en ai moins fait. Et maintenant, j'y reviens depuis très peu d'années, on va dire 2 ans à peu près. Je retourne dans des spas, je refais des massages, tout ce qui est souvent même les eaux thermales, eau chaude, eau froide. Tout ce qui me fait du bien, qui m'enveloppe en fait dans mon corps et qui me détend physiquement et mentalement. Et puis je me suis mis aussi à la méditation depuis très peu pour justement être disponible mentalement avec les humains. La formation est très demande énormément d'énergie, mais on reçoit énormément, tout comme les chevaux. Et curieusement, c'est quand je vais masser des chevaux que je me ressource et que ça m'apaise en fait. Et donc je me suis dit, tiens, quand je les masse pas, je fais comment? Mais donc j'ai essayé de là la philosophie tibétaine et puis je me suis mis à la méditation et ça fonctionne très très bien pour se ressourcer et se rééquilibrer en fait.
Qu'est-ce que le massage a apporté à ton ostéopathie et ton ostéopathie à ton massage? Tu as dit que tu as commencé par de l'ostéopathie, puis tu as enchaîné avec le massage et finalement tu as une affinité plus importante avec le massage, la matière. Mais j'imagine que l'un a porté à l'autre et vice-versa.
Ben oui, comme beaucoup d'ostéos d'ailleurs, ils vont travailler le tissu. Certains ostéos vont travailler le tissu avec des types de massages très spécifiques pour détendre la zone avant de manipuler ou détendre l'animal avant un acte ostéopathique. Donc en effet, on peut, ça arrive de faire des techniques de massage pour préparer une zone qui va être un peu complexe, par exemple les sacro-iliaques ou des zones un petit peu, ou si le cheval est vraiment sur la défensive, donc pour le mettre dans une attitude de para ou préparer la zone. Donc en effet, là, je vais jongler avec les deux en préparation. Et je trouve que j'ai des bons résultats. Après, ça, c'est personnel sur ce type d'approche, mais je sais que ça se fait, j'ai rien inventé, ça se fait beaucoup. Ouais.
Comment tu continues à te former d'année en année? Quelles sont les dernières formations que tu as reçues? Est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu fais des échanges avec des collègues? Tu suis d'autres ostéos et des masseuses? Comment tu te formes?
Alors, en massage, je lis beaucoup. J'ai été faire une formation en fasciathérapie en Allemagne, il y a donc, avant le Covid. Oui, c'est ça, bien avant, ça va faire 4 ans, je crois, de tête. Ça m'a apporté d'autres techniques, d'autres regards sur les tissus, sur l'approche, déjà, comment préparer un cheval et avoir une réponse physiologique, musculaire assez rapide. Parce que c'est aussi le business qui fait ça, c'est qu'il faut être rapide.
Oui, on a une contrainte de temps.
On a une contrainte de temps. Il faut que le cheval soit rapidement prêt, il faut qu'il puisse travailler, répondre à la demande du cavalier, etc. Et aux échéances.
Pour le cheval et pour nous, il faut aussi que notre journée ne fasse pas un massage, sinon ce n'est pas très rentable.
Non, c'est ça, il y a tous ces paramètres-là. Et il se trouve que la fasciathérapie, donc je l'ai découvert en Allemagne et je l'ai appliquée. J'ai fait une petite recherche sur le terrain en faisant pendant 3 mois sur un cavalier qu'une soixantaine de chevaux qu'en fascia, qu'en massage des fascias pour voir la réponse musculaire sans faire d'autres techniques que ça. Et la réponse a été extraordinaire dans l'entièreté du cheval. Il y avait une réponse différente que la prise en charge de massage d'une zone ou même la globalité. On n'a pas du tout la même réponse.
Technique que tu n'avais pas découverte lors de ta formation en ostéopathie.
Maintenant,
on s'ouvre un peu plus.
Ouais, c'est ça, exact. Ça évolue, c'est bien. Donc là, du coup, c'est une technique de massage. Donc on masse les fascias, comme on ferait un massage, on atteint les fascias aussi en massant le fascia superficiel. Mais là, on va travailler sur des zones. Et donc, j'ai appris à faire ça et je l'ai beaucoup utilisé. Et donc, c'était une nouvelle technique, voilà. J'écoute des podcasts, je regarde aussi des vidéos dès qu'il y a sur la biomécanique parce que ça me passionne. Donc j'ai regardé des webinaires pendant le confinement, ça c'était très très bien.
Est-ce qu'il y en a un que tu peux nous conseiller ?
Je voudrais pas écorcher le nom, j'ai trouvé vraiment très intéressant. Donc pendant le confinement, j'ai fait justement un webinaire qui avait été donné pas directement par elle, mais par une autre personne qui travaille avec. C'était le docteur Sautel, Marie-Odile Sautel, qui avait à distance un webinaire fort intéressant sur la biomécanique. Et surtout, comme là, je reprends mes études pour le volet apprentissage, éducation. Donc je suis assez prise aussi par ce retour aux études universitaires. Donc c'est aussi un autre volet de perfectionnement différent pour mieux comprendre. Parce que en fait, dans l'évolution de la formation, à force de côtoyer des adultes qui soit changent de vie en étant cavalière, mais individuelle, non professionnelle, et qui veulent changer de métier, ou des grooms ou des cavalières qui veulent aller plus loin pour que leur cheval travaille mieux, etc. Donc,
il faut que tu adaptes ton discours à cette personne qui se reconvertit pour que le message passe le mieux possible.
Et c'est ça. Et ce n'est pas du tout la même approche d'enseigner à des adultes. Donc l'andragogie, c'est l'enseignement pour les adultes, que l'enseignement pour des élèves dans un cursus
classique. Quelqu'un qui
n'est
pas encore façonné et que tu vas créer à ton effigie un peu.
Voilà. Okay. Et ça, je trouve ça passionnant. C'est pour ça que je me suis intéressée à l'éducation et particulièrement aux techniques d'enseignement. Grâce au retour à l'université.
Top. Est-ce que tu as un mentor, quelqu'un que tu connais personnellement ou non, et qui te motive dans tes missions ?
Alors, c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, si je ne me trompe pas, je suis tombée sur le livre du professeur Denois, qui s'intitule « Kinésithérapie du cheval », je crois, tout simplement, de tête. Donc ça a été... une première ouverture d'esprit. Ça, c'est quelque chose qui m'a plu dans son contenu et puis et qui m'a servi aussi sur le terrain à l'époque. Donc ça a été vraiment intéressant et même de voir aussi son approche sur toute la biomécanique, etc. Donc ça a été une première approche. Et puis cette rencontre, quand j'ai enseigné l'ostéopathie il y a longtemps, donc j'ai fait la rencontre d'un homme, donc François Serre aussi, qui a été aussi un mentor, oui, on peut le dire, et qui m'a poussé énormément, et notamment pour faire reconnaître cette qualité d'enseignement, de formation. Donc ça, je lui en suis très, très reconnaissant. Et puis, je suis entourée de gens, des femmes inspirantes aussi. Le docteur Brizou est une femme assez exceptionnelle dans son regard sur les animaux, sur les chevaux, et son approche, sa pertinence dans les propos. C'est des gens comme ça qui sont des piliers, qui donnent de la force et puis qui permettent, parce que c'est un travail solitaire, l'entrepreneuriat.
Ouais. Hein, on est et tous même la thérapie, en tant que thérapeute, oui. On travaille en équipe, mais pour le moment, on est quand même en auto-entreprise, en entreprise individuelle, du moins. Donc on est seul, on est en libéral et au bout du compte, on est seul.
C'est ça. On est tout le temps seul à prendre des décisions. Est-ce que je prends la bonne orientation ? On prend du recul, on a cette capacité-là parce qu'on est auto-entrepreneur. Donc moi, j'adore la liberté, j'aime l'autonomie, l'indépendance, c'est vraiment mon moteur. Donc ça, c'est sûr, mais parfois, les prises de décision, on est seul. Et donc, ces gens-là consultés qui nous orientent ou qui nous ouvrent l'esprit, même si on n'est pas d'accord, parce que je suis, pour finir,
seule décisionnaire, ouais, mais tu peux quand même avoir l'avis des gens que tu admires et que tu respectes.
Exactement.
Donc ouais. François Serre et le docteur Brizou, est-ce que tu as rencontré le professeur Denoît ?
J'ai eu l'occasion de le rencontrer 2012-2013. J'avais été au CIRAL parce que j'habitais pas très loin. J'ai pu le voir exercer. J'avais emmené des chevaux de clients, donc j'ai pu le voir travailler. J'ai discuté avec lui et c'est passionnant en fait, la richesse. Bien sûr, c'est une bibliothèque en fait sur toute la biomécanique et la réflexion, etc. C'est un autre métier aussi. Et j'ai découvert en fait l'éventail en orthopédie du professeur Denoît, le vétérinaire. Que j'ai eu la chance de rencontrer. J'avais besoin d'avoir plus de renseignements à ce niveau-là, de me perfectionner aussi sur l'amplitude possible de tous les types de fer qui existaient, et donc sur cet aspect orthopédique. Donc ça m'a apporté énormément en fait, de le rencontrer et de le voir à l'œuvre.
Tu enseignes depuis longtemps et tu continues d'enseigner dans ta propre école. Quel conseil donnerais-tu à un étudiant en massage ou à un jeune diplômé qui arrive sur le terrain ?
Alors, quelqu'un qui veut faire un métier autour du cheval dans le bien-être, donc en massage, déjà pour aborder, déjà pour rentrer dans cette école, suivre le cursus, sortir et pouvoir exercer, etc., il faut une grosse, grosse motivation. C'est-à-dire, même si on aime les chevaux, ça ne suffit pas. Si on est cavalière, ça ne suffit pas. Il faut aimer l'animal, ça c'est sûr, mais il faut avoir envie d'apprendre énormément de choses pour se permettre de poser la main sur un être vivant et essayer de l'améliorer, de l'accompagner plutôt dans son travail, parce que c'est un accompagnement qu'on fait en fait tout simplement comme un accompagnement d'un sportif. Ça peut être ingrat au début parce qu'il faut apprendre les bases de toute l'anatomie, les bases de toute la biomécanique pour donner un regard sur le cheval qu'on est en train de regarder. Est-ce que je l'ai amélioré ? Est-ce que mon massage a donné quelque chose ? Est-ce que je peux faire ou pas ce massage ? Donc notre champ d'application qui est que dans l'accompagnement et le bien-être, bah, pour le connaître, il faut en savoir énormément. Et donc ça demande un retour à l'école, parce que c'est quand même un retour en formation. Ça demande à peu près entre 3 heures par jour de travail sur les 12 mois, des examens, des doutes, des mises en situation sur le vivant. Et donc c'est plus loin, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que ça remet en question la personne, parce que quand on touche un animal, on se remet en question aussi, le toucher. Est-ce que je vais être capable ou pas ? Donc on va passer par des phases en général. Les femmes passent par des phases, parce que ce sont que des femmes qui viennent quasiment. Ça passe par des phases de doute. Au début, on est emballé, c'est magnifique. On se rend compte de l'ampleur du travail. On baisse un peu les bras. Et puis on est soutenu par l'équipe, bien sûr. Notre but, c'est ça. Mais ça demande un gros travail d'investissement personnel. Et une fois qu'on commence à comprendre, il y a une lumière. Et là, ça déroule. Et là, on sait pourquoi on va faire ça. Et c'est ça qui est difficile d'aller jusqu'au bout, mais ça en vaut le coup quand on a terminé. Parce que derrière, on a une joie, on va faire ce qu'on aime. Après, c'est un métier difficile, il faut faire sa place. C'est comme tous les métiers sur le terrain, les dentistes, les ostéos. Donc après, le professionnel qui va s'installer, il faut être patient. Si on veut tout de suite travailler et gagner de l'argent, il ne faut pas faire ce métier. Si on veut faire un métier passionnant, s'enrichir intellectuellement, apporter du bien-être, donc c'est une richesse qui va au-delà de soi-même, eh bien, il faut 3 ans. Certaines élèves ont la chance parce que pendant le stage, elles ont mis des billes, elles ont prouvé leur qualité et derrière, elles ont un premier client. Et elles travaillent au bout de 6 mois, elles commencent à travailler. Au bout d'un an, ça commence à tourner. Au bout de 2 ans, elles sont contentes. Mais en général, il faut, pour faire ses preuves, ben, il faut 3 ans, parce que pour faire ses preuves, c'est pas un one shot en fait, c'est toujours une répétition de gestes, ok, elle maîtrise et elle fait ses preuves. Donc du coup, il faut être patient, donc souvent il y en a qui travaillent à côté un petit peu, c'est exactement comme les ostéos qui démarrent, très souvent il me semble, et puis petit à petit ça se sait, quand on a de la qualité, ça se sait à un moment donné, même s'il y a du monde, il faut être confiant en soi, et puis on aura le retour à un moment donné. Alors peut-être pas dans le domaine, si c'est dans le trot, c'est dans le trot et c'est très chouette. Si c'est dans le western et moi non, je voulais faire que du CSO, ça ne fonctionne pas comme ça. On va là où ça nous emmène. Et puis, il faut être très disponible aussi. Si on ne sait pas où habiter, qu'on est jeune, il faut aller là où ça marche. Parce qu'il faut se préserver beaucoup aussi. Donc voilà, en fait, il faut être prêt à être adaptable, optimiste et surtout être patient et miser sur la qualité de sa main, miser sur le travail et pas miser sur la communication à tout va pour réussir. C'est pas ça la qualité d'un praticien ou d'une praticienne.
Merci, c'était une super réponse, j'adore. Et dernière question, qui aimerais-tu entendre dans un prochain numéro de Mordant ?
Alors, je serais très curieuse d'entendre une femme qui, je pense, peut nous apporter dans son discours un regard tout à fait intéressant, c'est le docteur Brizou. Elle est et compétitrice donc, sur le terrain, donc elle fait aussi ses preuves sur le terrain. Elle masse ses chevaux depuis qu'elle suit cette formation, donc elle a un regard très pertinent aussi. Et puis en plus, elle a assez de recul aussi en tant que vétérinaire. Et c'est une femme assez, c'est une femme passionnante. Donc j'aimerais
avec qui
vraiment...
tu as travaillé
et avec qui je travaille depuis 10 ans surtout et que j'ai réussi à convaincre pour l'utilisation des algues. Et c'était intéressant. Et elle l'utilise depuis 10 ans maintenant. C'est pas pour faire une promotion de quoi que ce soit. C'est la posture de départ a évolué vers quelque chose d'assez nouveau et récent. Et j'ai trouvé ça extraordinaire en fait cette évolution là. Et puis il y a une autre femme aussi qui a double casquette aussi, je ne sais pas si je peux en parler aussi, mais Claire Aubert qui est masseuse depuis quelques années, dentiste aussi et coach aussi, a un regard très pointu et pertinent sur le cavalier parce qu'elle est cavalière et elle a tout un tas de diplômes dans ce milieu-là pour entraîner les cavaliers. Et donc elle a un regard et sur le cavalier et sur le couple du cheval et sur l'harmonie des deux et bien sûr avec la biomécanique. Donc c'est intéressant aussi, c'est des nouveautés, c'est des ouvertures d'esprit pour le grand public, voilà.
Et pour le bien-être et la santé des animaux, donc
comme
parfait,
toujours.
Parfait. Merci beaucoup, je prends note.
Alors Mathilde, je tiens à te remercier, c'est la première fois que je fais un podcast. Je trouve le concept absolument passionnant parce que ça se développe de plus en plus dans plein de domaines et notamment dans l'éducation aussi. J'aime beaucoup ton approche et voilà, je voulais te remercier, c'est une chance pour moi, une opportunité de l'avoir fait.
Bah, merci beaucoup, d'habitude c'est moi qui remercie l'invité et là bah, ça me touche beaucoup ce que tu me dis. C'est beaucoup de travail mais énormément de passion et en fait à chaque fois tous ces échanges ça m'apporte énormément, donc c'est pour ça que je le fais. Merci. C'est la fin de l'épisode numéro 13. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez nous retrouver, Bénédicte et moi, sur les réseaux @equitalasso et @mathildeostéo. N'hésitez pas à soutenir le podcast en parlant autour de vous, en lui mettant des petites étoiles sur Apple Podcasts ou bien Spotify. Merci beaucoup et à bientôt dans le prochain épisode de Mordant.